BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau. 90 minutes business.
90 minutes business avec également Jean-Marc Daniel à mes côtés. Bonjour,
bonjour
Jean-Marc, une nouvelle semaine, comment ça va?
Mais toujours miel, toujours citron.
Les virus
mais,
sont là.
Mais ça va, ça va.
On est là aussi.
On est toujours là.
Au beau sommaire de ce lundi 6 février, Renault et Nissan qui valident leur rééquilibrage, le rééquilibrage de leur alliance. Conférence de presse commune ce matin à Londres. Justine Vasson y a assisté. On va la rejoindre au début du journal. Danone qui inaugure son nouveau centre de recherche et développement sur le plateau de Saclay. Centre dont la construction a été lancée avant l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique, mais sur lequel il compte beaucoup. On va rejoindre sur place en direct Pauline Tadevin. Ce sera dans le focus dans 5 minutes. Et puis, avec notre invité, nous parlerons cinéma, fréquentation des salles obscures, Astérix et Obélix. L'Empire de Milieu a fait un bon démarrage, vous allez le voir. Est-ce que les spectateurs sont de retour durablement? On posera la question donc à Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Et puis n'oubliez pas, 12h55, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez toutes vos questions à cette adresse, avec vous à bfmbusiness.fr. Lorraine Goumeau y répond, elle vous aide à recruter aussi en direct en télé, radio et sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal.
90 minutes business, le journal.
Et nous l'annoncions, Justine Vassogne, Renault et Nissan qui viennent de terminer leur conférence de presse à Londres. Ils ont annoncé une refonte de leur alliance et ils vont, comme entendu, rééquilibrer leur participation croisée, mais aussi se lancer dans de nouveaux projets. Justine, vous êtes à Londres donc, le but finalement c'est de gagner en liberté.
Oui, exactement, Sandra. Et ce qu'on a ressenti vraiment lors de cette conférence de presse, eh bien, c'est un profond soulagement. Cela faisait longtemps que nous attendions cela, a expliqué Jean-Dominique Sénard, le président de Renault. Les négociations ont été longues et difficiles. Tout le monde l'a admis ce matin. J'ai plus parlé avec vous qu'avec ma propre famille, a lancé Makoto Uchida, le directeur de Nissan à Luca de Meo. Alors concrètement, les deux entreprises se sont entendues, vous l'avez dit, sur un rééquilibrage de leur participation croisées. Chacune va désormais détenir 15% du capital de l'autre avec des droits de vote associés. Une relation d'égalité qui nous donne plus de liberté, ont expliqué Nissan comme Renault, pour investir où nous le souhaitons. Investir ensemble ou non avec d'autres partenaires. Par exemple, s'agissant des projets communs, Nissan va investir dans Ampère, la nouvelle entité 100% électrique de Renault. Nissan y participera jusqu'à 15%, mais cela pourrait être moins. Ça n'est pas fixé. Il y a eu beaucoup de questions autour de cela lors de cette conférence de presse où il y avait aussi de nombreux investisseurs. Mitsubishi, on l'a appris ce matin, va aussi peut-être investir dans Ampère. Renault et Nissan, enfin, vont travailler ensemble sur différents marchés. En Inde, ils vont partager une plateforme pour produire notamment des SUV. En Amérique latine, ils vont partager des usines, notamment en Argentine et au Mexique. Cela faisait 20 ans que Renault n'avait pas fabriqué de voitures au Mexique. Tous ces projets annoncés ce matin, parce qu'il y en a, eu d'autres, pourraient rapporter à Renault comme à Nissan des centaines de millions, voire des milliards d'euros par an. Ça, c'est ce qu'a estimé Luca de Meo, le directeur général de Renault.
Luca de Meo qui sera l'invité de Good Morning Business demain à 8h15. Jean-Dominique Sénard, lui, sera l'invité d'Edwige Chevrillon mercredi à 19h30. Merci beaucoup, Justine Vassogne, en direct de Londres. Investir ensemble ou non, est-ce que c'est la fin de l'alliance, celle qu'on connaissait en tout cas, de
oui,
toute façon,
je pense
Jean-Marc.
Que c'est une page est tournée. Alors, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est d'abord que symboliquement, ça se passe à Londres. On pensait que ça aurait pu se passer à Paris, c'est Renault.
Paris ou Tokyo, oui, peut-être,
ou Tokyo, éventuellement. À Londres. Et puis, alors, je pense qu'au Quai d'Orsay, on doit être très, très jaloux. Parce que, pour ne pas avoir employé les mots capitulation ou défaite, on a trouvé le mot rééquilibrage.
Oui.
Et donc, le rééquilibrage, c'est quand même la forme moderne en français pour dire on a été obligé d'avaler notre chapeau. Et je pense qu'au Quai d'Orsay, il pourrait prendre des leçons sur comment masquer une défaite. En une sorte d'accord, de rééquilibrage.
De rééquilibrage. Merci, merci Jean-Marc. Et c'est au tour des banques françaises de dévoiler leurs résultats cette semaine, à commencer par BNP Paribas. Demain, comme ailleurs en Europe, on attend des records. Les banques françaises qui souffrent pourtant d'un handicap, elles ne peuvent pas répercuter les hausses de taux aussi facilement que leurs concurrentes européennes. Explication, Caroline Morisseau.
Premier problème, contrairement à leurs concurrentes italiennes, espagnoles ou britanniques, les banques françaises, elles, prêtent à taux fixe. La hausse des taux ne s'applique donc qu'aux nouveaux prêts immobiliers. Et même là, elles ne peuvent pas répercuter comme elles le souhaitent ces augmentations à leurs clients à cause d'une autre spécificité nationale, le taux d'usure, ce plafond auquel les banques sont autorisées à prêter. Dernier problème enfin, la hausse des taux des livrets réglementés, le livret développement durable, mais surtout le livret A génère des surcoûts importants pour les banques. Ce sont elles, en effet, qui rémunère 40% des sommes collectées au titre du livret A, avec un taux qui vient encore de grimper de 2 à 3% début février, des encours qui battent des records. La facture s'annonce salée, selon l'agence Fitch. Le coût pour les banques pourrait s'élever à près de 2,5 milliards d'euros, tout livret d'épargne confondu.
Et est-ce la fin des blocages sur le marché du crédit immobilier? Une semaine après l'entrée en vigueur du nouveau taux d'usure mensuel, les courtiers semblent plutôt confiants. Marie-Cœur de Rouen.
La mensualisation du taux d'usure sera-t-elle suffisante pour débloquer le marché du crédit immobilier? Une chose est sûre, il était temps d'agir, nous disent les courtiers. En témoignent les chiffres de production de crédit que vient de publier la Banque de France elle-même. Seulement 14,5 milliards d'euros d'emprunts accordés en janvier. C'est 40% de moins qu'il y a un an et un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 2016. Cette actualisation du taux d'usure va donc permettre de fluidifier le marché ces prochains mois, estiment les courtiers. D'ailleurs, les nouveaux barèmes des banques pour février, affichent en majorité des taux d'intérêt permettant de ne pas franchir l'usure fixée à près de 3,8% pour les crédits les plus longs. On est ainsi autour de 2,8% sur 20 ans et un peu au-dessus de 3% sur 25 ans. Attention tout de même, pondère-t-on chez vous financer, il reste des banques qui verrouillent la distribution de crédit en attendant de pouvoir réellement y retrouver de la rentabilité. La machine ne sera donc sans doute pas encore véritablement relancée avant la deuxième partie de l'année.
C'est l'heure de notre focus ce grand jour pour Danone qui inaugure son nouveau centre de recherche et développement. Pauline Tadevin, vous êtes sur place, sur le plateau de Saclay en région parisienne. Un centre dont la construction a été lancée avant l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique, mais sur lequel il compte beaucoup.
Oui, et alors ça s'active. Hein. Je suis sur place là, devant ce nouveau centre de recherche et développement depuis ce matin. Je peux vous dire que ça s'active beaucoup. Ce sera cet après-midi, hein, à partir de 14h bien sûr, mais le patron de Danone, Antoine de Saint-Affrique, est déjà là. On a eu l'occasion de le croiser. Il est ravi de ce nouveau centre de développement, forcément flambant neuf. Au cœur du pôle scientifique et technologie de Paris-Saclay, l'entreprise était déjà présente sur ce plateau depuis 2002, mais elle a construit donc un nouveau bâtiment plus moderne qui s'appelle Incube, 21 500 mètres carrés. Danone a investi plus de 100 millions d'euros. Il est prévu que 500 salariés et chercheurs y travaillent sur les produits et emballages de demain. C'est le plus gros centre de R&D en Europe. Danone a voulu créer une entité à la pointe de l'innovation scientifique et technologique. Il s'agit notamment de travailler sur les ferments, la nutrition spécialisée, les protéines végétales.
Une venue qui vient mettre un peu plus de poids encore dans l'événement, d'ailleurs, Pauline, c'est celle de la Première ministre Elisabeth Borne.
Oui, Elisabeth Borne a annoncé sa venue au cours du week-end. Ça témoigne, nous dit-on chez Danone, de l'importance qu'on met dans cet événement. Du côté du gouvernement, on lie ce centre à l'objectif de souveraineté alimentaire de la France et on souligne le dynamisme et l'excellence de la recherche française. Elisabeth Borne sera là vers 14h. Elle a visité ce centre avec Antoine de Saint-Affrique. Ils donneront un discours en fin d'après-midi qu'on suivra, bien entendu, sur BFM Business.
Merci beaucoup, Pauline Tadevin, en direct du plateau de Saclay. Jean-Marc, ça dit quoi cette ouverture à Saclay de ce centre de recherche et développement de Danone, qui est une grosse entreprise stratégique?
Exactement, c'est une entreprise stratégique. Ça montre que dans un secteur qui est quand même l'agroalimentaire, la production de produits laitiers, on pourrait penser qu'il n'y a pas encore de recherche à faire. Au contraire, on maintient cet effort de recherche et de développement. Et puis, c'est aussi l'occasion pour Danone de sortir un peu de la crise qui avait été celle du départ de son président. précédent PDG,
Emmanuel Faber.
Emmanuel Faber, qui s'était interrogé sur la pertinence de la démarche RSE. Et donc là, il y a cette idée que finalement, Danone continue à être à l'avant-garde, continue à faire la course en tête en termes de progrès, y compris social. Donc, c'est plutôt une bonne chose, je pense, pour Danone.
On rassure les investisseurs aussi avec
ça. On rassure les investisseurs tout en disant que, effectivement, l'héritage d'Emmanuel Faber n'est pas totalement abandonné. Mmh. On va essayer d'améliorer, effectivement, la qualité du produit, de respecter le consommateur, de respecter les ouvriers. Donc, tout ça est plutôt une bonne opération pour Danone, je pense.
Allez, on va faire un point Euronext tout de suite. Antoine, grosse consolidation ce matin à la Bourse de Paris après une semaine pourtant faste. Pourquoi ce coup de froid d'un coup ?
C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une forte baisse comme ça, moins 1,6%, on redescend à 7114 points. Du côté de l'Eurostock 50, on baisse d'1,6% et moins 1,26% pour le DAX à Francfort. Alors déjà, on a des bénéfices à prendre parce qu'on a connu une semaine faste la semaine dernière, qu'on a traversée sans encombre et c'était pas donné. Trois décisions majeures de banque centrale, des statistiques partout, dernière parue, l'emploi américain qui n'allait pas du tout dans le scénario actuel. Donc du coup, des inquiétudes qui ont sans doute infusé pendant le week-end sur la croissance mondiale. Alors on a vu ce matin une forte baisse du côté des matières premières minières en Chine. On voit d'ailleurs une baisse assez marquée du baril de pétrole qui est maintenant sur le fil des $80 pour le Brent de mer du Nord. On était même légèrement en dessous un petit peu plus tôt ce matin. Donc du coup, un petit ferment d'inquiétude et puis sans doute des prétextes pour prendre des bénéfices sur tout ce qui a bien marché ces dernières semaines. Kering recule de 3,96%, c'est la plus forte baisse du CAC à 574,90€. On a ST Micro, moins 3,19 à 44,65€. ArcelorMittal, moins 3,22 aussi à 27,69€. Donc un mélange de valeurs de croissance, un mélange de valeurs cycliques. On sent qu'il y avait des tentations de prendre des profits. La seule valeur en hausse du CAC 40, c'est Orange, qui avance de 0,08% à 9,60€. À la baisse, en revanche, on a encore une séance très difficile pour Orpea, qui perd 9,5% à 2,51€. Vous vous rendez compte, le titre a perdu 60% sur l'ensemble de la semaine passée et depuis un an, il perd 91%. Donc après l'annonce de la reprise en main par la CDC, mais le titre n'arrête pas de perdre du terrain en bourse. Le CAC 40, moins 1,69, 7112 points. Et du côté de l'euro face au dollar, le billet vert confirme son embellie. On redescend à 1,0768, Sandra.
Merci Antoine, on vous retrouve à 12h30. Vous nous parlerez de ce qui se passe chez Eurazeo. À tout à l'heure. Allez tout de suite, c'est l'édito de Jean-Marc.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, ça va mieux les finances publiques ? Vous nous en parlez tous les jours.
Mais oui, vous savez, c'est une de mes obsessions. Mais mon obsession, c'est d'atteindre l'équilibre budgétaire. Or là, quand on regarde les chiffres, malgré le cri de victoire du ministère des Finances, et notamment du secrétaire d'État ou les ministres, je crois, au budget, la situation n'est pas très brillante. Alors effectivement, par rapport à ce qui avait été anticipé, il y a 20 milliards de réduction du déficit, dont une partie est liée à une amélioration de la conjoncture par rapport à ce qui avait été anticipé, donc des rentrées fiscales qui sont plus abondantes, puis une partie est liée au fait que l'administration a été moins efficace que prévu, ce qui fait qu'il y a des dépenses qui avaient été budgétées, qui n'ont pas pu être effectivement réalisées, mais seront réalisées cette année, il ne faut pas se faire d'illusions. Au total, donc, on arrive quand même à un déficit budgétaire de 150 milliards d'euros.
Il n'a jamais été aussi gros.
Ça n'a jamais été aussi élevé. C'est le déficit de l'État. Le déficit public est un peu moins élevé parce qu'un certain nombre de services para-administratifs rattachés aux administrations publiques dégagent des excédents, mais l'État en tant que tel a un déficit de 150 milliards d'euros. Ça représente grosso modo un tiers de ces dépenses qui sont couvertes par le recours à l'emprunt, avec comme conséquence que effectivement l'État est de plus en plus dépendant et des marchés et surtout des décisions qui sont prises par la banque centrale. Et donc quand on nous parle de souveraineté, de nécessité de rapatrier un certain nombre d'industries, je pense que avant de se remettre à fabriquer des masques pour la pandémie, avant de vouloir faire revenir de la production de lithium en France, on pourrait se poser la question de savoir si un pays est souverain quand il est à ce point endetté.
Alors, c'est quoi la solution, Jean-Marc ?
La solution, c'est de travailler plus pour avoir davantage de recettes fiscales.
Et ça, le gouvernement, il travaille.
Il essaie. Je reconnais que là, il essaie. Et puis, c'est d'essayer de regarder de façon très précise les dépenses publiques et de se poser la question de savoir pourquoi on dépense temps avec aussi peu de résultats. C'est ce que disait le président de la République à propos d'un certain nombre d'actions sociales. Il disait, on dépense un pognon de dingue avec un résultat extrêmement décevant. Et donc, je pense que là aussi, c'est une question que l'on doit se poser. Pourquoi on dépense autant d'argent avec des résultats aussi pathétiques dans certains secteurs? Michel Pébreau, quand on lui avait demandé comment faire pour réduire le déficit budgétaire, avait dit, il faut bloquer les dépenses à leur niveau en euros courants, c'est-à-dire maintenir la somme. Et puis, à ce moment-là, il faut demander, une fois que ce sera acquis, à chaque administration de se poser la question comment s'en sortir avec une enveloppe ainsi contenue.
Merci beaucoup Jean-Marc. Restez avec nous dans un instant. On va faire un bilan du démarrage des salles de cinéma pour 2023. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu a fait un très bon démarrage. Les spectateurs sont-ils durablement de retour? On va poser la question à Marc-Olivier Sebag qui sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Et puis midi 55, deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie Lorraine. Tiens, l'île de Noirmoutier a besoin de beaucoup de monde en ce moment.
Mais oui, 10 000 habitants à l'année, 100 000 pendant l'été. Alors comment faire vivre le territoire au rythme de l'emploi saisonnier? On sera avec la directrice de l'emploi de cette belle île, ou presque île, faut-il dire, avec nous. On parlera évidemment emploi dans le secteur du tourisme, donc, mais aussi en cybersécurité. Et puis c'est lundi, donc la libre antenne est dédiée aux questions sur le droit du travail. On sera avec un avocat qui répondra à toutes vos questions.
Voilà, rendez-vous avec Lorraine à 12h55 et nous on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Avec nous ce midi, Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans 90 minutes business. On va s'intéresser déjà à la sortie du cinéma français de ce début d'année. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Il y avait déjà eu une très bonne journée hein, mercredi dernier. Ça donne quoi? Presque une semaine.
À dimanche soir, c'est-à-dire que les entrées du week-end, Astérix dépasse désormais les 1,6 million entrées, ce qui est vraiment fort. On pense qu'il va finir la semaine à 2 millions d'entrées.
Oui, pour un bon démarrage.
Semaine, c'est un très bon démarrage et qui augure à coup sûr que ce film fera au minimum autour de 4-5 millions d'entrées, voire plus, hein, puisque les espoirs du producteur vont au-delà, bien sûr, mais c'est un très bon démarrage. Et puis les vacances commencent, hein, la première zone de vacances commence. Et c'est un film typique pour les vacances où les grands-parents ou les parents emmènent les enfants. Donc c'est vraiment un bon début de semaine pour Astérix.
Est-ce que, comme l'a dit Guillaume Canet à la sortie du film, le sort du cinéma français dépend un peu du succès de ce film? On rappelle que le budget est pharaonique, hein, 65 millions d'euros. Il avait peur que si c'était un échec, les investisseurs n'investissent plus dans le cinéma français. C'est une réalité?
Alors je pense que ça marque surtout l'attachement de Guillaume Canet à ce film plutôt que la vie globale du cinéma. C'est très bien qu'il ait beaucoup d'ambition et qu'il se réalise, ses ambitions se réalisent, donc on est très heureux pour ce film et pour les salles de cinéma et pour toute la filière du cinéma. Mais il y a d'autres films français qui arrivent, hein, dans lesquels il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a par exemple Alibi.com qui sort ce mercredi, oui. Le 2 hein, de cette série. Et puis Les Trois Mousquetaires qui vont sortir en deux volumes, si je puis dire, pour parler comme en littérature, en deux volets, en deux films cette année, un début avril pour les vacances de Pâques et puis un à la fin de l'année. Et il y a beaucoup aussi dans ces films français à très gros budget, il y a aussi beaucoup d'espoir dans ces deux films-là. Puis il y a plein d'autres films qui marchent très bien. Tirailleurs, par exemple, le film avec Omar Sy a dépassé le million d'entrées ce week-end, donc, alors que c'est un film qui est plus difficile, qui est un thème beaucoup plus grave. Et puis, par exemple, il y a un film à réessai qui est sorti mercredi dernier qui s'appelle After Sun, qui sort sur quelques salles et qui est complet dans toutes les salles dans lesquelles il est proposé.
Jean-Marc Daniel, oui, c'est ce que vous disiez, il faut des bons films.
Il faut des bons films, exactement, oui. Moi j'aurais deux questions. La première question, il faut qu'il y ait des salles, des offres, parce que le nombre de places, parce qu'il faut des salles, puis il faut qu'il y ait de la place dans les salles aussi, a plutôt tendance à stagner ou à augmenter ou à reculer par rapport
Le nombre de places disponibles.
Disponibles pour
Il augmente, hein, puisqu'on est il y a 6000 écrans, plus de 6000 écrans désormais en France, 6000 salles de cinéma dans 2000 cinémas, et chaque année, il y a des nouveaux cinémas qui se construisent, des cinémas qui sont rénovés. Il y a un énorme effort de la filière pour rénover et construire de nouveaux cinémas. Et le nombre de, par contre, le nombre de places, de fauteuils disponibles est à peu près le même, alors qu'on augmente le nombre de salles parce qu'on prend plus de confort, plus d'espace pour les spectateurs. Mais il n'y a pas du tout de diminution du nombre de fauteuils. Non, ça, pas du tout.
Et la deuxième question, justement, pour qu'il y ait de bons films, on parle du cinéma français. Moi, ce qui me frappe, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a des cinémas autres qu'aux États-Unis et en France. Alors, on a perdu les cinémas de nos voisins, les Allemands et les Italiens continuent à faire encore des films, et sans parler alors des Indiens, du Nigeria, dont j'aime beaucoup le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas, ces films ?
Mais vous aviez pu voir en fin d'année dernière la Conspiration du Caire, par exemple, un film égyptien tourné avec les Suédois, mais un film égyptien quand même, et qui a fait plus de 500 000 entrées.
Exactement.
C'est absolument extraordinaire pour ce type de film. Mais non, ces films sont là. L'Immensità, au mois de janvier, est sorti ce film avec Penélope Cruz qui s'appelle L'Immensità, qui est un film italien. Vous avez ces cinématographies-là, mais dans beaucoup de pays européens, la production de films, la production cinématographique a beaucoup baissé. Vous ne les voyez pas parce qu'il y en a moins qui sont produits. Par contre, vous voyez des films coréens, vous voyez des films japonais, et vous en voyez beaucoup, et pas seulement des mangas, mais aussi des films d'action, aussi des films graves qui sont au cinéma. Donc la France est le premier pays en Europe pour son cinéma, en production, mais aussi en nombre de salles, mais aussi en entrée, et aussi surtout en diversité des offres qu'elle propose. Chaque année, en tout cas en 2022, pour vous donner un chiffre récent, il y a eu 40% de part de marché pour le cinéma américain, 41% pour le cinéma français, donc juste un peu plus, et donc 20% pour les autres pays, dont sont les pays auxquels vous faites référence.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a récupéré le public d'avant pandémie ?
On a récupéré le public à peu près avant pandémie. On est à plus 10% par rapport à janvier 2020, janvier 2023. Janvier 2020, c'était avant la pandémie. Oui. Et on est à moins 10% par rapport à 2019. Donc vous voyez, on est revenu à des niveaux normaux, des niveaux habituels. Voilà, maintenant on emploie des mots comme ça parce que, bien sûr, il faut voir l'année qui vient devant nous. Hein, mais elle s'annonce bien, d'une part, parce qu'il y a beaucoup de films proposés, beaucoup de films de toutes catégories, des films américains, des films français, des franchises anciennes comme Indiana Jones qui va revenir, mais aussi, je vous parlais des Trois Mousquetaires, ou des films à réessai comme ce film After Sun, ou le film de Noé Milovski qui sort la semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup de choix pour tous les publics et l'industrie culturelle, l'économie culturelle, l'économie du cinéma, c'est une économie de l'offre. Si vous offrez des bons films, comme vous le disiez à l'instant, là, vous avez des bons, beaucoup de spectateurs et des bons spectateurs qui reviennent parce qu'ils ont le plaisir d'être heureux au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut à la fois leur proposer et aussi qu'ils soient satisfaits. C'est cette économie du désir dans laquelle on est dans l'industrie culturelle.
Moins soumise, finalement, aux difficultés du pouvoir d'achat. Vous le disiez tout à l'heure, on a moins de salles, mais elles demandent plus d'espace. On est mieux installé dans les salles. On est prêt à payer 15 euros, par exemple, pour une salle qui propose des fauteuils allongés. Je pense à certaines salles dans la capitale. C'est quand même une somme, 15 euros, c'est plus que l'abonnement Netflix d'un mois. C'est vrai qu'on compare souvent au streaming. Les spectateurs sont prêts à ça aujourd'hui, pour retourner au cinéma de toute façon, pour l'instant.
Alors, à l'instant, je vous disais, l'économie culturelle, c'est une économie du désir. Ouais. Il y a le film qui fait envie, il y a la salle qui doit faire envie. Et le prix, vous parliez de 15 euros, ça reste modéré par rapport à tous les loisirs à l'extérieur de chez soi. Lorsque vous allez à l'extérieur de chez vous, vous allez au stade, vous allez au concert, ça sera forcément plus cher que d'aller au cinéma. Mmh. Et pour 2 heures, 3 heures de spectacle, dans une salle de cinéma, c'est un prix qui reste modéré. La moyenne française étant autour de 7 euros. Donc, vous prenez l'exemple de certaines salles toutes innovantes, enfin toutes
neuves, les plus chères, évidemment, les plus chères à Paris.
Qui est la ville la plus chère de France, et c'est normal parce que le loyer est cher, les coûts de ville, la ville sont chers, etc. Eh bien, pour 7 euros, vous pouvez aller voir Astérix, par exemple, ce week-end, voire pour moins, puisqu'il y a beaucoup de salles dans lesquelles vous avez des offres d'abonnement ou des tarifs qui sont moins chers. La grande particularité du parc de salles en France, si on compare à la Grande-Bretagne, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de cinéma dans des petites villes ou des villes moyennes dans lesquelles, par nature, les tarifs sont beaucoup plus intéressants puisque le coût du foncier, qui est un coût majeur pour le cinéma, à côté du coût de l'énergie, qui est une autre problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui, le coût des fonciers est moins cher dans les petites villes.
Jean-Marc, une question ?
Oui, justement, dans ces cinémas qui continuent à subsister, il y a beaucoup d'éléments associatifs, la population s'en empare. Est-ce que le secteur réussit à trouver son équilibre entre les grandes chaînes de salles et puis ces petites salles-là ? Est-ce qu'il y a une économie parfaite du nombre de salles qu'on doit avoir, ou est-ce que...
Oui, tout à fait. Vous employez le mot « rester », ces salles qui restent. En fait, non, elles ne restent pas, elles se développent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'augmentation du nombre de salles en France, il est alimenté par les grands circuits et aussi tout le réseau de salles petites et moyennes, privées, associatives, municipales, hein, et qui se rénovent et qui se développent. Je pense par exemple au cinéma de Bernay, qui vient d'être rénové, qui est tout neuf en Normandie. Donc oui. Là, c'était un monosalle, il est devenu un trois salles. Et donc là, on a le cas typique d'une offre renouvelée. Le cinéma, c'est une offre de proximité. Proximité dans son parcours de vie, son parcours quotidien, que ce soit dans les petites villes, dans les périphéries des grandes villes ou dans les centres-villes des grandes villes. Et l'économie de chaque segment est très importante, effectivement. Mais ce qu'on remarque pendant la crise, c'est que elle a touché tous les types de salles, mais qu'il y a un renouveau dans tous les types de salles. C'est-à-dire que tout le monde réussit à rebondir parce que certains en investissant de façon très innovante, d'autres en rénovant leur cinéma de proximité et en gardant ce lien avec les spectateurs, parce que c'est ce lien, peut-être ce que nous a appris cette crise, c'est que la solution, elle était dans l'offre de films et dans le lien étroit entre la salle et les spectateurs.
Le cinéma va bien, ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup Marc-Olivier Sebag d'être venu nous voir, délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français.
Merci. Vous
reviendrez nous voir évidemment en cours d'année. Tout de suite, le top 3 du web.
90 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, le moment préféré que Jean-Marc Daniel avec Frédéric Bianchi aujourd'hui.
Et oui.
Voilà. À la veille du troisième mouvement contre la réforme des retraites, François Hollande était l'invité de BFM TV. C'est ce qui intéresse le plus nos lecteurs ce matin, Frédéric.
Ah oui, ça peut surprendre, mais c'est bien les commentaires de François Hollande sur la réforme des retraites, invité ce matin d'Apolline de Malherbe. Et donc, il a considéré que le gouvernement avait fait une erreur en considérant que c'est au Parlement qu'allait se jouer cette réforme des retraites. Le gouvernement n'aurait, selon l'ancien chef de l'État, pas assez privilégié le dialogue social. Et François Hollande se fait un petit peu le héros, le porte-parole, un petit peu des Français qui considèrent que cette réforme suscite un sentiment d'injustice. Voilà le commentaire de l'ancien chef de l'État qui avait, on le rappelle, fait la réforme Touraine, c'était en 2014, sur l'allongement de la durée des annuités de cotisation.
Ça vous fait sourire, Jean-Marc?
Mais oui, parce qu'une nouvelle fois, je vais être en désaccord avec François Hollande. C'était assez régulier pendant son quinquennat. Et là, je pense qu'au contraire, le gouvernement en ce moment, son problème, c'est pas tellement les manifestations ou les grèves. Les grèves sont en train de s'effriter. Les manifestations, heureusement, jusqu'à présent, se sont passées dans le calme et une forme de sérénité qui est assez exemplaire. Mais en revanche, le gouvernement était persuadé qu'il allait avoir une majorité à l'Assemblée. Or, elle n'arrête pas de se défaire, cette majorité. On compte même qu'il manquerait jusqu'à 100 députés pour faire passer le texte. Donc le vrai problème, c'est pas la rue.
La bataille est bien devant le Parlement.
C'est bien la bataille au Parlement, c'est
effectivement
bien la bataille politique.
Le deuxième article concerne, une fois encore, le déstockeur Nose.
Nose, vous connaissez Nose, ces magasins de déstockage où on trouve un petit peu tout, ça cartonne. C'est une ancienne française. Hein. Et donc, ils font un petit peu de toutes les faillites. Ils font le tour de France des faillites et il y en a eu quelques-unes actuellement dans le secteur de l'ameublement ou du textile. Hein. Ils ont fait par exemple le déstockage de Camailleux, ça avait cartonné dans leur magasin. Et bien maintenant, c'est Made.com. Made.com, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une enseigne britannique en ligne de meubles. Et bien Nose a racheté les stocks de Made.com qui a fait faillite. Hein. C'est 450 camions de marchandises, l'équivalent 141 000 pièces qui vont arriver dans les magasins Nose d'ici le 7 février. Donc gros travail logistique avec des prix qui pourraient aller jusqu'à moins 70%. Et on sait que ces marques-là qui se retrouvent chez Nose, en général, elles attirent beaucoup de clients. Ils ont l'impression et ils font souvent de très bonnes affaires. À moins 70% sur du meuble, c'est pas mal.
Et certaines commandes n'ont pas été honorées par Made, mais par contre, on pourra trouver les mêmes articles sur Nose. C'est ça le problème. Hein.
Exactement. Ouais. Vous n'avez pas été livré à des articles
de Nose. Jean-Marc, un commentaire.
Oui, juste quand on parle du taux d'inflation, tout ça ne fait pas partie du taux d'inflation. Non. Et donc, je ne dis pas que les Français ont un pouvoir d'achat plus important que ce qu'on pense du fait d'opérations de ce style-là, mais à la fois c'est un des plus lus dans les articles qu'on publie et ça correspond à une certaine forme de débrouillardise des Français qui savent lutter pour garder leur pouvoir d'achat et je le salue.
Ça c'est vrai. Et puis on termine par cette initiative d'un magasin Carrefour qui veut lutter contre le vol de chariots, Frédéric.
Exactement, il va y avoir une boucle magnétique à côté autour d'un magasin Carrefour dans la région de Rennes. Alors est-ce que vous savez combien coûte un chariot? Ça coûte 200 euros quand même, pièce, à l'achat. Or, dans ce magasin Carrefour, comme dans tous les magasins de supermarchés, on s'aperçoit que les chariots soit sont volés, soit sont laissés à des centaines, voire plusieurs kilomètres du magasin. Résultat, eh bien, il faut aller les chercher, c'est compliqué, il faut en racheter. Donc ce magasin de Carrefour d'Ille-et-Vilaine a un système, une boucle magnétique, c'est-à-dire que quand vous allez franchir la limite du parking du magasin, les roues de votre chariot vont se bloquer.
Ça
vous
va
n'avez
marcher beaucoup
plus
moins bien.
Qu'une solution, oui. Faire marche arrière et aller ranger votre chariot. C'est une innovation que va mettre en place en tout cas ce magasin. Ça va coûter quand même plusieurs centaines de milliers d'euros pour mettre ça en place, donc il faut faire un calcul coût-bénéfice de l'opération.
Non, j'espère que les auditeurs, téléspectateurs de BFM s'intéressent à ça pour être fascinés par l'innovation et pas pour se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir continuer à voler,
les chariots. Non, mais c'est certainement pour l'innovation, Jean-Marc, évidemment. Merci beaucoup, Frédéric. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de l'émission et le rappel des titres de Stéphanie Cole.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Cole.
Et à la une, après des mois de discussions, Renault et Nissan refondent leur alliance. L'accord acte un rééquilibrage des relations capitalistiques. Renault et Nissan vont chacun détenir 15% du capital de l'autre et le japonais va investir jusqu'à 15% dans Ampère, l'entité électrique du français. Des projets industriels communs sont aussi relancés, notamment en Inde et en Amérique latine, avec à la clé plusieurs milliards d'euros de synergies, de coûts et de revenus d'ici 2030, selon les constructeurs. De quoi gagner en agilité, selon le directeur général de Renault, Luca De Meo.
Nous nous sommes mis d'accord sur la possibilité par Renault de réduire cette participation, ce qui nous permettra de garder notre agilité et d'optimiser notre affectation du capital. L'étage intermédiaire de cet accord vise pour Renault à regagner une certaine agilité stratégique sans nécessairement mettre à mal les efficacités et les synergies qui existent.
Et notez que Luca De Meo sera l'invité de Good Morning Business demain à partir de 8h15. Et puis mercredi, Edwige Chevrillon reçoit Jean-Dominique Senard. Ce sera à partir de 19h30. Coup de théâtre chez Eurazeo. La dirigeante Virginie Morgon est poussée vers la sortie. Conséquence de dissension avec le principal actionnaire, la famille Decaux, qui souhaitait son départ. Elle est remplacée par deux présidents, Christophe Bavière et William Cadouche-Chassin. RTE va rendre à ses clients près de 2 milliards d'euros avant le 15 mars en raison de la forte hausse de ses recettes. La CRE précise qu'Enedis, c'est les entreprises locales de distribution, seront les principales bénéficiaires ainsi que 380 clients industriels. Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Habeck seront à Washington demain. Ils vont tenter d'obtenir ensemble des concessions sur le champ d'application du plan anti-inflation américain qui totalise près de 400 milliards de dollars de subventions. Les deux ministres vont défendre le principe de transparence pour éviter une course folle aux subventions de part et d'autre de l'Atlantique. On en vient à cette crise diplomatique entre Pékin et Washington. L'armée américaine a abattu samedi en Caroline du Sud un ballon chinois considéré comme espion. Dans la foulée, le chef de la diplomatie américaine a annulé à la dernière minute sa visite en Chine. Pékin assure qu'il s'agissait d'un aéronef civil et accuse les États-Unis d'avoir surréagi. Les relations entre Washington et Pékin sont gravement affectées et endommagé, selon la Chine. En France, l'exécutif lâche du lest sur la réforme des retraites alors que le texte arrive en discussion à l'Assemblée. Elisabeth Borne propose de nouvelles concessions pour notamment obtenir l'adhésion des députés LR sur les carrières longues, en particulier les salariés qui auront commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront eux aussi partir plus tôt à 63 ans contre 64. Cela concernera jusqu'à 30 000 personnes chaque année. Et puis, demain, ce sera la troisième journée de mobilisation contre cette réforme en moins de deux semaines. Le trafic sera fortement perturbé pour les TGV, TER, métro, RER et puis dans les airs. Un vol sur cinq est annulé à Orly. À la RATP, l'intersyndicale appelle d'ores et déjà à une nouvelle journée de grève ce samedi. On jette un coup d'œil au marché. À la mi-journée, le CAC évolue nettement dans le rouge, -1.6%, 7117 points, Sandra.
Merci beaucoup, Stéphanie Colo.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Et avant de rejoindre Antoine Larry-Gaudry qui va revenir sur l'affaire Euraseo, un petit commentaire, Jean-Marc, de l'actualité. Pékin qui confirme que le ballon, ce fameux ballon qui a été abattu au-dessus de l'Amérique latine, est d'origine chinoise. Ballon de nature civile qui aurait dévié de sa trajectoire. C'est ce que dit ce matin la diplomatie chinoise. Est-ce que ça change quelque chose, justement, ces aveux au niveau diplomatique, ou ça va vraiment refroidir durablement les relations?
Non, je pense que ce sera une crise relativement limitée et relativement éphémère. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on utilise maintenant des engins qu'on soupçonnait et qu'on supposait dépassés par l'histoire, comme les ballons, pour se mettre à espionner les autres pays.
Mais c'est parce qu'ils vont plus haut, ils peuvent... Alors, normalement, on les voit pas. Hein.
Voilà, l'avantage, c'est qu'ils passent au-dessus d'un certain nombre, notamment des radars, et qu'ils passent... ils sont dans des zones qui sont protégées et où les militaires ne devraient pas intervenir. Mais je pense que c'est un des premiers, parmi de multiples incidents que nous allons connaître, une espèce de guéguerre. Ceux qui ont connu la guerre froide se souviennent probablement que dans les années 60, toutes les semaines, il y avait un incident à Berlin. Il y avait un chat qui était du mauvais côté. Il y avait une Jeep qui n'avait pas été enregistrée au bon endroit et tout ça. Donc je pense que les Américains et les Chinois vont rentrer dans une phase de ce type de relations. Je pense pas que ce soit extrêmement inquiétant.
Bon, très bien. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Et on va rejoindre Antoine Larry-Gaudry en direct d'Euronext. Antoine, on revient sur ce changement d'époque chez Euraseo, qui perd sa patronne, qu'on connaît bien ici, Virginie Morgon, remplacée par une double présidence. Virginie Morgon, elle était là depuis 2018. Elle semble tomber finalement sous le coup d'une révolution de palais qui couvait depuis un moment, Antoine.
Oui, une guerre de clans même, sans doute, qui jusqu'ici avait pu être évitée. En fait, depuis sa prise de pouvoir en 2018, vous l'avez dit, Virginie Morgon avait mis en place une stratégie d'ouverture de Euraseo vers le financement de domaines nouveaux, le financement des start-up, de l'innovation, de l'écosystème de la French Tech. Vous vous souvenez, on l'appelait la banquière des start-up. Et ça sortait un petit peu des domaines habituels de Euraseo. Mais forcément, le financement de l'innovation, c'est une stratégie de capital patient. Et ça s'est ressenti sur le cours de bourse de Euraseo, qui sous-performe assez largement son indice de référence, le SBF 120, depuis 5 ans, et ça a commencé à irriter certains actionnaires du groupe, et en particulier la famille Decaux, présente au capital depuis 2017, juste avant que Virginie Morgon n'arrive à la présidence. Mais jusque-là, il y en avait un qui temporisait, qui apaisait les tensions dans la maison, c'était Michel David Veil, figure tutélaire de Euraseo, fondateur du groupe et ancien président de la banque Lazard, dont Euraseo est une émanation et dont provient aussi Virginie Morgon. Et l'été dernier, malheureusement, Michel David Veil décède. Et là, les digues sont rompues, la voix des Decaux infuse chez les autres actionnaires pour réclamer du changement, jusqu'au conseil d'hier soir qui voit Virginie Morgon donc poussée vers la sortie, ainsi que beaucoup de l'héritage historique de Lazard. Le choix des nouveaux présidents en dit long d'ailleurs, puisque Christophe Bavière est président d'Idée Invest, c'est une émanation de l'assureur AXA, et William Cadouche-Chassin, c'est l'ancien directeur financier de la Société Générale. Donc retour peut-être d'un directoire avec des orientations peut-être plus conservatrice, et une famille Decaux en tout cas qui assoit sa puissance chez Euraseo. Quelques réflexions que ça peut évoquer. Alors déjà, on voit sur le départ un visage féminin, brillant, la haute finance française, qui avait des plans stratégiques innovants, qui se voit ainsi éconduit. Est-ce que cette stratégie va également être éconduite? Je me souviens d'un invité de Christophe Jacubizine ce matin qui s'inquiétait de voir Euraseo peut-être déserter le système de financement des startups. Et puis d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi un signal d'un retour en force des grandes familles, comme on dit, au sein du capitalisme français, et là précisément au sein d'une des plus grandes institutions financières privées de France?
Oui, il y a deux questions là-dedans, Jean-Marc, effectivement.
Oui, alors d'abord je pense qu'effectivement il faut rappeler que les actionnaires sont quand même ceux qui décident normalement à la fin des fins. On a beaucoup parlé, les partenaires, les parties prenantes, la RSE dont on parlait tout à l'heure, et tout ça. Puis à la fin des fins, il y a quand même ceux qui ont apporté l'argent et ceux qui demandent des comptes à ceux qui gèrent cet argent. Et puis, la deuxième question là-dessus, est-ce que c'est un retour des familles et tout ça? Juste un conseil pour les auditeurs téléspectateurs, une fois qu'ils auront fini de lire les articles sur le web, qu'ils retrouvent dans leur bibliothèque l'argent de Zola, et ils s'apercevront comment ça se gère le capitalisme et comment on se déteste. quand on gère le capitalisme et comment la détestation des uns et des autres permet effectivement d'arriver à une forme d'équilibre, qui est l'équilibre de marché, l'équilibre concurrentiel, l'équilibre naturel de l'économie.
Voilà, l'équilibre naturel de l'économie.
Au travers de la haine, c'est ce que raconte Zola dans L'Argent, et c'est assez bien vu.
Un des premiers romans qui m'a fait aimer la bourse, L'Argent de Zola, et puis le film Les Grandes Familles, que je vous invite à
absolument
revoir. Jean Gabin dedans, c'est un véritable morceau
d'anthologie. De Maurice Druon, qui est, c'est moins bien que L'Argent, mais c'est aussi une belle référence.
Merci beaucoup messieurs, merci Antoine Larigauderie. Allez, dans un instant, notre débat, on va parler emploi, conjoncture, perspective pour 2023. À tout de suite.
90 minutes business, le débat.
Notre débat, et on va parler d'emploi aujourd'hui dans cette partie de 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi et Sylvain Mercinger qui nous a rejoint, économiste au cabinet Asterès. Bonjour messieurs. Le chômage qui a reculé de façon significative en 2022 en France, hein, l'économie elle ralentit, mais on va y revenir. Quelques chiffres, Frédéric.
Alors, le chômage, objectif plein emploi, c'est l'objectif 5%, hein, affiché du gouvernement. C'est même, alors théoriquement, le plein emploi serait même en dessous des 5%. C'est un seuil en deçà duquel on considère que, globalement, un chômeur n'a aucune difficulté, n'éprouve aucune difficulté à retrouver un emploi. 5%, la France l'a connu, mais il faut remonter jusqu'au premier trimestre 1979. On était nés autour de cette table presque tous, sans doute. Peut-être pas tous, mais en tout cas, ça remonte à assez loin. Premier trimestre 1979, depuis, on n'a jamais retombé sous cette barre des 5%. On est monté à plus de 7%, on a franchi les 7% en 82, les 10% en 93. Depuis, ça fluctue, on est monté, on est descendu. On est tombé sous les 7 quand même, hein. C'était dans les années 2000, hein, 2006. Après, on a eu la crise évidemment de 2008. Bon, là depuis, alors on dit depuis 2017, mais c'est depuis 2015 en fait qu'on observe ce reflux. On est aujourd'hui à 7,3% de la population active. Il reste encore un long chemin à accomplir pour descendre sous ces 5%, peut-être le plus dur chemin. Est-ce qu'on va y arriver ? Ben on va voir si les différentes réformes mises en place ou envisagées par le gouvernement permettront d'atteindre ce 5% de taux de chômage qui nous fuit depuis 40 ans.
Votre réponse, Sylvain Bercinger ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec le panorama. C'est vrai qu'en fait, on a eu un rebond du marché du travail en sortie de crise Covid, meilleur en tout cas que ce que j'attendais. Je ne sais pas si cet avis est partagé, mais moi, je ne m'attendais pas à voir un taux de chômage qui baisse aussi rapidement et aussi un taux d'emploi qui augmente. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le taux de chômage est orienté à la baisse depuis plusieurs années et le taux d'emploi à la hausse. C'est-à-dire que c'est une double bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Parce que des fois, le taux de chômage peut baisser parce qu'il y a des actifs qui ne recherchent plus de travail, qui sortent de la statistique, etc. Mais là, on a vraiment ce ciseau d'un chômage qui baisse et d'un emploi qui augmente. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait, sur 2022, alors on parle beaucoup de l'inflation et des problèmes qu'on a eus, qui sont exacts, mais il y a quand même eu de la croissance, hein, 2,6%, un investissement qui a été dynamique. Donc en fait, une conjoncture qui n'est pas aussi mauvaise que ce qu'on pourrait l'entendre quand on entend les titres de la presse.
5 millions de CDI signés, cela s'ajoute aussi 1 million d'entreprises créées en 2022. On en a déjà parlé avec Jean-Marc Daniel. Néanmoins, il y a quand même un nombre énorme d'offres non pourvues en ce moment, notamment dans les métiers de proximité, transport et restauration, Jean-Marc.
Oui, il y a toujours ce problème d'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Quand on regarde dans l'évolution du chômage, on peut dire qu'il y a deux éléments qui jouent. Il y a la dynamique économique et puis il y a les politiques de l'emploi. Est-ce qu'elles sont capables, effectivement, d'améliorer la situation et de corriger ces distorsions qu'il peut y avoir sur le marché du travail ? Alors, il y a 25 ans, le président de la République, François Mitterrand, avait dit contre le chômage, on a tout essayé, il y avait 3 millions de chômeurs, il avait répondu sauf ce qui marche, et dans la foulée l'OCDE avait sorti une stratégie pour l'emploi qu'elle a réactualisée 25 ans après, donc en 2018. Ce qu'il y a de frappant dans les recommandations que mettent en avant les organisations internationales, que ce soit le FMI ou l'OCDE au travers de cette stratégie pour l'emploi, c'est toujours de ne pas se tromper sur la politique économique, de ne pas faire confiance à l'augmentation de la demande, aux politiques de relance. Ça peut donner un feu de paille, ça peut donner l'illusion d'une marche vers le plein emploi, mais ça ne marche pas à moyen long terme. En revanche, il y a toujours trois éléments qu'on recommande. Le premier élément, c'est la formation. Alors, ça devient un peu une sorte de tarte à la crème. Il faut faire de la formation. Donc, oui, ce que dit bien l'OCDE maintenant, c'est il faut réfléchir au contenu et pas se limiter à augmenter systématiquement les budgets d'éducation, de formation et de formation professionnelle. La deuxième, c'est l'indemnisation du chômage. Et donc là, il y a une action très claire, très nette du gouvernement dans ce sens. Et puis, le troisième enjeu, c'est de maintenir effectivement la pression sur les entreprises pour qu'elles innovent, pour qu'elles soient en capacité effectivement de susciter de la croissance. C'est la bien bonne vieille loi d'Aucune, comme on disait autrefois dans les cours de macroéconomie. Moi, ce qui me frappe quand même dans tout ça, c'est que on est dans une situation où le chômage se porte bien, mais la croissance est moyenne. Et donc, il y a un élément pervers dans tout ça, c'est que la productivité est en train de se défaire.
Elle est en baisse, effectivement.
C'est assez sensible. Hein. En gros, la productivité d'un emploi, elle est presque 3% inférieure à 2019. Donc, c'est quand même assez significatif. Mm. Bon, alors, si c'est une tendance durable, c'est une tendance problématique, puisque à moyen long terme, la hausse des salaires et la croissance, elle suit de manière quasiment mécanique les gains de productivité. J'ai quand même le sentiment que cette baisse de la productivité du travail, elle est plutôt momentanée, plutôt due à des facteurs conjoncturels. On a vu certaines entreprises, par exemple dans l'aéronautique ou dans l'automobile, qui avaient des difficultés momentanées de production ou de demande, qui par exemple ont gardé leurs salariés alors même que la production baissait. Donc mécaniquement, la productivité moyenne a baissé. Alors le temps de travail a un petit peu baissé, donc il faut voir si on regarde la productivité par salarié ou par heure travaillée. Et je crois qu'il y a aussi un élément qui est que dans les bons chiffres des créations d'emplois, il y a beaucoup d'apprentis. C'est à peu près un tiers des créations d'emplois. Et donc, globalement, en moyenne, on va dire, l'ancienneté, l'expérience moyenne des salariés a plutôt baissé. Ce qui peut expliquer que, du coup, la productivité d'un apprenti est en moyenne un peu plus basse que la productivité de quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans d'expérience.
Ça veut dire que les chiffres sont faussés ?
Alors, c'est pas qu'ils sont faussés, mais enfin, il faut les regarder en ayant un peu tous les éléments en ligne de mire. Mmh. Donc voilà, je pense que cette baisse de la productivité qui est inquiétante, si elle est durable, mon pronostic, c'est plutôt qu'elle est momentanée. Mais j'espère que j'ai raison, parce que sinon, on a un vrai problème.
Frédéric.
Elle s'est accélérée surtout, parce qu'elle existe finalement depuis plusieurs années, finalement, cette baisse de la productivité. On l'observait avant la crise du Covid, et on se demandait même pourquoi, alors qu'on a des nouveaux outils numériques qui devraient nous faire gagner de la productivité, qui devraient accélérer les gains de productivité, on observe un phénomène inverse, qui est qu'au contraire, eh bien, on diminue, on est de moins en moins productif. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit finalement par des salaires qui restent stables. Certes, on crée des emplois, on le voit énormément dans le commerce de proximité, les commerces de bouche, et où on a besoin de main-d'œuvre, le service à la personne, la santé, où les gains de productivité sont finalement très faibles, où il n'y a pas d'automatisation. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, un boucher, un boulanger, il ne s'est jamais ouvert autant de boulangeries actuellement en France. Ça, on le sait pas beaucoup. Et pourtant, voilà, ce sont des emplois concrets, mais sur les gains, des emplois sur lesquels on ne fait guère de gains de productivité. Concernant le chômage, il a baissé en France, mais je voudrais préciser qu'il a baissé un peu partout en Europe. Finalement, ouais. Le phénomène est global. Alors, est-ce que ce sont les politiques économiques du gouvernement qui ont permis une accélération ? C'est difficile de dire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, que ce soit la réforme du Code du travail avec plus de flexibilité. Hein, les réformes, on en a parlé, c'était au début du quinquennat 2017. Il y a eu les réformes du coût du travail, le CICE transformé en exonération de charges pérennes, les réformes de l'assurance chômage qui sont entrées en vigueur
dès le 1er février.
Ouais. C'est-à-dire qu'un chômeur sera indemnisé 25% de moins dans une période de conjoncture favorable. La réforme aussi de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 apprentis en France. On en avait 300 000 en 2017. Voilà, on sait que 60% globalement des apprentis mettent un pied dans l'entreprise et peuvent transformer leur apprentissage en emploi. Donc le gouvernement a eu une action positive. Est-ce que ça suffira maintenant pour atteindre ces 5%, pour aller chercher ces 2% qui nous manquent pour aller au plein emploi ? C'est là que... C'est vrai que c'est difficile à dire.
On parlait de la formation comme élément important, Jean-Marc. On le voit tous les jours dans les entreprises que nous recevons. Tout le monde se met à former les employés dont ils ont besoin spécifiquement. Ça, on a l'impression que ça a quand même été intégré par les entreprises.
Oui, alors il y a tout un tas de travaux, notamment de Paul Romer, qui est un économiste américain qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur la croissance endogène. Et donc sur le fait qu'en améliorant le capital humain par la formation, on augmente les potentialités de croissance. Et donc cette croissance, après, se diffuse et ça permet de lutter contre le chômage. Mais ce que dit bien Paul Romer, c'est qu'on a... Alors, il utilise des mots anglais, il dit on est trop passionné, fasciné par les diplômes, il faut s'intéresser à deux choses, le skill, le savoir-faire en anglais, et l'education. Education, c'est le mot qui vient du français, donc c'est aussi un comportement, c'est aussi une façon de le savoir-être. Et il dit que finalement, un des grands enjeux des sociétés à venir, ça va être d'avoir un regard sur la qualité des formations et de pas se limiter à considérer qu'en augmentant les volumes de formation, on atteindra un objectif. Quant à la productivité, et je rejoins ce qui a été dit, c'est un des grands mystères, c'est le mot d'ailleurs. Il y a eu un rapport qui a été fait par le Conseil d'analyse économique et tout un tas d'économistes ont été auditionnés. Et la conclusion du rapport, c'est l'évolution de la productivité est un mystère. Et donc, c'est très concret comme conclusion. La question qui se pose, c'est à partir du moment où on est face à un mystère, qui va résoudre le problème ?
Sylvain ?
Oui, alors, plusieurs réactions sur l'objectif de plein emploi donc, qu'on fixe à 5%, même si évidemment on ne sait pas exactement ce que c'est. J'aimerais qu'on y arrive. Dans les années à venir, ça me semble un petit peu difficile. Là, on est à 7,3% de chômage, on aura les nouveaux chiffres bientôt. On a une conjoncture quand même qui ralentit, hein. Comme on l'a dit, moi je ne crois pas à la récession, mais en tout cas, une année 2023 qui ne va pas être forcément brillante, une année 2024 qui risque d'être un peu poussive.
Selon la Banque de France, le chômage devrait repartir à la hausse cette année. Oui, enfin, en tout cas, c'est les prévisions un peu pessimistes de la Banque de France.
Ça dépend des prévisionnistes. Certains sont plutôt sur une stagnation, d'autres une légère hausse. Et voilà, l'objectif de 5% de chômage dans les 2, 3, 4 années à venir, j'aimerais y croire, mais ça me semble un petit peu optimiste. Et c'est vrai que sur la productivité, je rejoins tout à fait Jean-Marc Daniel. D'ailleurs, souvent, la productivité, on la mesure un peu comme une inconnue. C'est-à-dire, on regarde ce qui a été produit, on regarde les moyens de production. Et la différence, on dit, c'est la productivité. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être prudent sur ce sujet-là. En fait, c'est la variable peut-être la plus importante en économie.
Est-ce qu'on la mesure bien d'ailleurs ? Est-ce que nos outils aujourd'hui sont les bons ?
C'est tout un débat, hein. Déjà, est-ce qu'on parle de productivité du travail ? Est-ce qu'on parle de productivité par salarié ? De productivité horaire ? De productivité du capital ? De productivité totale des facteurs ? Donc en fait, c'est vraiment un débat qui est difficile à répondre comme ça, simplement. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans le sens où la variable la plus importante pour la trajectoire de croissance de long terme, c'est celle qui est la plus dure en fait à appréhender et à mesurer.
Frédéric, le mot
de la fin. Effectivement, c'est une bonne question. Il y a certains qui estiment qu'aujourd'hui, la production et la création de richesses est sous-estimée, ce qui sous-estimerait donc du coup la productivité, parce qu'on fait des choses eh bien, qu'on n'arrive pas forcément à valoriser, ou sur le plan environnemental, sur le plan de la rapidité, sur le plan des services, des choses-là qu'on ne mesure pas dans le PIB et qui feraient qu'il y aurait peut-être des gains de productivité cachés, alors qui ne se traduisent pas effectivement en augmentation de salaire, et voilà, mais en tout cas qui se traduisent déjà en création d'emplois. Et ça, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup. Jean-Marc ?
Le mystère, c'est un mystère.
Merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure de retrouver Lorraine tout de suite.
90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
La libre antenne de l'économie, deuxième partie de l'émission. Lorraine Goumeau vous aide à recruter pour votre entreprise. Elle répond aussi à vos questions. Lorraine, aujourd'hui, beaucoup de recrutement du côté de la presqu'île de Noirmoutier.
Et oui, on va zoomer sur ce territoire de l'ouest de notre pays avec Séverine Balliot. Bonjour Séverine.
Bonjour Lorraine.
On vous donne la parole ce midi. Vous êtes responsable de la maison de l'emploi France Service de l'île de Noirmoutier. Et vous incarnez un problème économique important pour nombreux de nos territoires. C'est l'équilibre entre une haute saison et une basse saison. Vous vous souvenez peut-être, on a reçu il y a quelques jours le patron de l'Office du tourisme de Val Thorens qui nous évoquait aussi ces problèmes de saisonnalité. Alors un chiffre pour illustrer, 10 000 habitants année à Noirmoutier, 100 000 l'été. Comment on fait pour vivre au rythme de l'emploi saisonnier chez vous, Séverine ?
Alors, merci Lorraine de m'inviter sur le plateau pour vous parler de cette belle île de Noirmoutier qui vit effectivement au rythme des saisons, hein, saison agricole, hein, puisqu'avant tout c'est le secteur primaire, la pêche, l'aquaculture, la pomme de terre, hein, la culture de la pomme de terre démarre. Fin du mois, ça va être les marais salants, hein, les marais salants qui représentent un tiers de la surface de l'île, une île qui fait 49 km². Et bien sûr, c'est une île qui vit aussi au rythme de la saison touristique. Hein, comme vous l'avez très bien indiqué, on fait x10 en ce moment, hein, qui c'est très très calme et très agréable également. Et puis la saison qui va très prochainement démarrer. Donc la problématique de l'emploi, c'est vraiment une problématique essentielle pour toute la communauté de Noirmoutier. Et la Maison de l'Emploi France Service de l'île de Noirmoutier, c'est un service qui est directement rattaché à la Direction de l'économie et de l'emploi de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, et qui comporte 4 communes.
Alors on va parler spécifiquement de vos besoins, des postes que vous recrutez, un peu moins de 500 tous les ans. Ce sera dès 13h dans quelques minutes. Si vous avez des questions, des réactions, vous nous écrivez. Voilà Sandra le programme.
Merci beaucoup Lorraine, la libre antenne de l'économie. C'est maintenant télé, radio, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn. Avec Lorraine, vous posez toutes vos questions pendant, avant, après l'émission. On y répond évidemment. Quant à moi, je vous retrouve demain avec Jean-Marc Daniel, avec toute l'équipe également. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Très bonne journée sur BFM Business.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.